chers Canadiens. Est-ce que vous comprenez bien en arrière, là? Merveilleux, merveilleux. C'est ça qu'on aime au Québec. Les gens comprennent vite. Puis ils comprennent bien. Et c'est pour ça que j'ai toujours plaisir de venir dans le Québec parler de politique. Pas seulement parce qu'il y a des enfants dans les arbres, puis des ballons, puis de la joie dans la foule, mais parce que les Québécois comprennent le sens du geste politique. On voit ça par la façon dont ils votent aux élections fédérales. Ce qui est important, c'est de penser que le Québec a toujours eu des traditions de comprendre le Canada et de comprendre ce que c'est que le Canada. On envoie à Québec des députés pour représenter le Québec. On envoie à Ottawa des députés pour représenter le Québec, mais dans l'ensemble du Canada. Et les Québécois, comme je le disais en Saskatchewan, ont compris ça. Là-bas, ils envoient à Ottawa un Jimmy Gardner, un Diefenbaker, un Otto Lang, des hommes forts qui veulent représenter la Saskatchewan dans l'ensemble du pays. Parce qu'ils savent que c'est une province qui n'est pas très grande et qui a besoin d'une voix forte à Ottawa. En même temps, ils donnent aux provinciales des gouvernements forts, celui de Tommy Douglas, celui de Ross Thatcher. Eh bien, ici au Québec, on a toujours fait la même chose. Et c'est ça l'intelligence politique des Québécois. En même temps qu'ils envoyaient à Ottawa un Saint-Laurent, ou un Laurier, ou un Henri Bourassa, pour que le Québec ait une voix forte à Ottawa, parce qu'après tout, les francophones en Amérique du Nord, on est une petite minorité, c'est important d'avoir là des hommes et des femmes qui savent se tenir debout et représenter les intérêts du Québec. Et en même temps, on comprenait l'équilibre politique et on envoyait à Québec un Duplessis, un Taschereau, un Lesage, un Lévesque. On sait que les Québécois se sont toujours définis comme des Canadiens. Souvent même, on disait que les autres, c'était des Anglais. C'était nous, les Canadiens ou les Canadiens. Et la raison de ça, c'est qu'on sait que dans un pays grand comme le Canada, il faut un gouvernement central qui est capable d'établir l'équilibre dans l'ensemble du pays. Un gouvernement provincial tout seul n'aurait pas les reins assez solides, disons pour faire face à l'Alberta qui nous vend son pétrole à des prix inférieurs aux prix mondiaux. Pourquoi? Parce qu'il y a un gouvernement fédéral qui rétablit l'équilibre. Un gouvernement québécois tout seul n'aurait pas les reins assez solides pour avoir des allocations supplémentaires de la vieillesse, comme M. Pearson les a données. Un gouvernement québécois ne pourrait pas avoir l'assurance hospitalisation pour l'ensemble du pays, comme M. Saint-Laurent nous l'a donné. Un gouvernement provincial tout seul n'aurait pas les reins assez solides pour donner les allocations familiales à l'ensemble du pays. Pourquoi? Parce que dans un grand pays comme le Canada, il y a des provinces plus pauvres et il y a des provinces plus riches. Et ça prend un gouvernement national qui est capable de représenter les intérêts de tout le monde. Voyez dans le textile, par exemple. Ce serait plus économique pour les gens de la Colombie d'acheter leur textile de Taïwan ou de la Corée ou de Singapour. Pourquoi est-ce que dans le Québec, le textile marche à 100%? Pourquoi est-ce que dans le vêtement, les usines travaillent à 100% de leur capacité? Parce qu'il y a un gouvernement national qui dit, eh bien, ce serait moins cher d'acheter ça en Corée. Mais nous autres, on va mettre des quotas ou des douanes pour que les Canadiens aient l'avantage, en même temps, d'acheter un peu en Corée, puis en même temps, d'être obligé d'acheter ce qui est produit au Québec ou en Ontario. Et seulement un gouvernement national qui est capable de chercher l'intérêt de l'ensemble. C'est la même chose pour les automobiles. J'arrive de la Colombie, où j'étais hier matin, de la Saskatchewan, où j'étais hier l'après-midi. Ce serait moins cher pour eux d'acheter des automobiles des États-Unis plutôt que celles qui sont faites à Sainte-Thérèse ou dans Volvo en Colombie, en Nouvelle-Écosse. Ce serait moins cher. Mais le gouvernement canadien dit qu'il faut avoir un marché canadien. Et ça, il faut un gouvernement national fort qui peut faire ça. On sait l'histoire de ce pays. On sait que les premiers colons de l'Ouest, c'était des gens qui parlaient français. On sait que les gens, les premiers qui sont venus d'Europe pour s'établir en Amérique du Nord, dans ce qui est devenu le Canada, c'était des Acadiens qui sont établis à Louisbourg, qui sont établis à Port-Royal. On sait ça. Puis on sait que ce pays-là, qui était exploré, découvert, colonisé par des parlants français, on sait qu'il ne resterait fort et uni qu'à condition qu'il y ait au gouvernement central quelqu'un capable de parler au nom de cette minorité francophone. Et c'est ça que les Québécois ont compris, que ce soit Laurier, que ce soit Henri Bourassa, que ce soit Laverne, que ce soit Saint-Laurent. Ils ont compris, puis le peuple québécois a compris l'importance de ça. Et quand on vous parle des fois de la Constitution, les gens disent « qu'est-ce que ça mange en hiver? » Ben, je peux dire ce que ça mangerait s'il n'y en avait pas une pour nous protéger, nous, Québécois. S'il n'y en avait pas une Constitution. Ça mangerait les francophones comme ils ont été mangés dans d'autres provinces où il n'y avait pas un gouvernement national capable de passer, comme on l'a fait, une loi des langues officielles. Ce qu'on veut, c'est des Canadiens du Québec, qui soient francophones ou anglophones ou qui viennent des quatre coins du monde, mais qui disent, on est des Canadiens, puis on veut un gouvernement qui va parler pour tous les Canadiens, d'où qu'ils viennent et où qu'ils restent, et quelle que soit la langue qu'ils parlent. Et ça, encore une fois, les Québécois l'ont compris depuis 100 ans. Les autres provinces le comprennent également. Ils savent que c'est un gouvernement libéral fort qui peut, à Ottawa, tenir tête à ceux qui voudraient briser le pays, que ce soit le parti séparatiste ici ou que ce soit des séparatistes d'ailleurs. L'enjeu, c'est de savoir si les Québécois vont se refermer dans leurs frontières ou s'ils vont continuer de dire « Eh bien, le gaz qu'on vient de découvrir dans le Grand Nord, là, quelques 3 milliards de pieds cubes, ça va nous appartenir. Puis le gaz qui vient d'être découvert au large de la Nouvelle-Écosse, ça va continuer de nous appartenir. Puis les sables pétrolifères de l'Athabasca, le plus grand gisement au monde de pétrole, ça va continuer de nous appartenir. Puis les mines de l'Ouest, puis les forêts de l'Est, puis les pêcheries des côtes, ça appartient aux Canadiens, puis ça va continuer de nous appartenir. » Et je n'ai pas à vous faire de dessin sur les problèmes internationaux, vous le savez. Vous voyez encore sur la télévision que même dans un pays aussi riche que les États-Unis, les gens se battent, font la queue pour remplir leur automobile de gasoline. Vous voyez qu'en Proche-Orient, en Iran, une révolution a eu lieu qui a coupé du jour au lendemain une très importante de nos approvisionnements en pétrole, à nous, Québécois, à nous, gens des provinces maritimes, parce que nous n'avons pas, nous, comme l'Alberta ou la Saskatchewan, du pétrole à nous. À une période où la pression inflationniste, causée encore surtout par la crise de l'énergie, puisque depuis 5 ans et demi, le prix du pétrole a augmenté de 760%, on parle d'une inflation de 10, 15, 20, des fois, les prix ont augmenté de quelque chose de 40%. Eh bien, dans le pétrole, qui chauffe vos maisons, qui fait marcher les tracteurs, qui est à la base de notre industrie et de nos emplois, Ce pétrole a augmenté de 760% en 5 ans et demi. Dans un monde où on voit que cette poussée inflationniste est en train de frapper les pays qu'on croyait à l'abri de tels problèmes, dans les 3 premiers mois de 1979, les chiffres ont été publiés la semaine dernière, on voit qu'en Italie, l'inflation atteint 17%, aux États-Unis, à côté de chez nous, 13%, en Angleterre, 12%, en France, 10%, l'Allemagne, la Suisse et le Canada, heureusement, sont bons premiers, mais c'est encore autour de 9-10%. On sait que ces menaces-là, ça va continuer. On sait que les pays du tiers-monde qui, depuis trop longtemps, sont acculés au bord de la famine, demandent maintenant une place plus importante dans nos marchés à nous pour nous vendre chez nous leurs textiles, chez nous leurs vêtements. On sait que les pays du tiers-monde accaparent aussi nos marchés traditionnels où on vendait nos produits manufacturiers et qui sont obligés de leur faire concurrence. Eh bien, c'est un monde, dans les années 80, qui ne soit pas plus facile que dans le monde des années 70 ou des années 60. C'est un monde où le Canada garda sa place de bon premier, à condition qu'il soit dirigé avec fermeté et avec sagesse. Et c'est encore plus vrai des menaces intérieures à ce pays. J'étais hier au Sault-Sainte-Marie, où les grandes usines d'acier produisent pour le Canada, mais devaient faire concurrence à des produits japonais ou européens qui étaient déversés, dompés à des prix non concurrentiels sur notre sol et qui risquaient de mettre en chômage des milliers d'employeurs de l'acier s'il n'eût été d'un gouvernement qui avait su parler au nom de l'ensemble du pays, de la même façon que j'arrive de province, qui trouverait plus facile et moins cher d'acheter leur automobile aux États-Unis qu'à Sainte-Thérèse dans le Québec, et moins cher d'acheter leurs chemises et leurs vêtements de Taïwan ou de Singapour plutôt que de Drummond ou de Granby. C'est des problèmes qui ont existé et qui vont continuer d'exister. Et pour résister à ces problèmes-là, il faut un gouvernement, voyez-vous, qui peut parler au nom des Canadiens, de tous les Canadiens, et de dire aux consommateurs, bien sûr, vous pouvez acheter votre textile moins cher en Corée du Sud, mais il y a des Québécois qui travaillent dans le textile, puis on va mettre des barrières tarifaires, puis des contingentements, pour qu'au moins 50% de ce qui est consommé au Canada soit produit au Canada. Et ça prend un gouvernement national qui va dire la même chose dans le domaine des grains de Provence, par exemple, pour assurer que les Québécois vont pouvoir continuer d'acheter au même prix leurs grains de Provence que celui auquel les fermiers de la Saskatchewan peuvent se le vendre entre eux. Et ça prend un gouvernement national capable de dire à la province d'Alberta ou de Saskatchewan, d'accord, vous avez du pétrole, vous pourriez, si vous vouliez, nous le vendre à 20 $ du baril. Mais on est tous Canadiens, puis bien sûr, ce pétrole-là est administré par vous. Mais on vous demande, et on vous demande comme gouvernement fédéral, de vendre ce pétrole aux Canadiens à un prix de beaucoup inférieur au prix mondial, si bien que dans la province de Québec, par exemple, ça nous coûte 200 $ de moins par année pour chauffer nos maisons avec l'huile au chauffage et à peu près 25 cents du gallon de moins pour le gallon de gasoline dans nos voitures. Parce qu'il y a un gouvernement national qui peut parler au nom de tous les Canadiens. Parce que dans l'assurance hospitalisation qui est amenée au pays par Louis Saint-Laurent ou dans l'assurance médicale qui a été donnée au pays par Lester Pearson, deux premiers ministres libéraux, on sait qu'il faut un gouvernement national fort pour empêcher que les provinces commencent à s'esquiver et à débâtir ce programme-là. À Alors, il y a des problèmes dans le pays. On a vu l'Alberta qui demande, par exemple, que le gouvernement fédéral abdique son pouvoir sur le commerce interprovincial, de sorte qu'on n'aurait plus l'autorité en temps ordinaire d'assurer que tout le monde paye le même prix pour le pétrole et que nous autres, ici, dans le Québec ou dans l'Est du pays, on soit obligés de payer notre pétrole pour faire marcher nos usines 18 ou 20 $ du baril, alors qu'eux, le paieraient peut-être à 10 ou à 12, si bien que tous nos emplois ici seraient perdus et la concurrence serait plus possible. Et on sait qu'on vit dans un pays où, par exemple, les provinces maritimes veulent arracher au gouvernement fédéral la juridiction que nous avons sur les pêcheries et qui nous ont permis d'arracher aux autres pays du monde une zone de 200 000 qui maintenant, après des années de misère, fait la prospérité des pêcheurs de la côte Est ou de la côte Ouest. Parce que cette zone de 200 000 est maintenant administrée par des Canadiens pour des Canadiens. Et on sait qu'il y a une province comme la Saskatchewan qui veut enlever au gouvernement fédéral la juridiction que nous avons dans les communications, ou un gouvernement au Québec ou en Ontario qui veut réduire la juridiction que nous avons de parler pour tous les Canadiens dans le domaine du sport ou de la culture. Mais si on veut que le pays reste grand, si on veut qu'il reste fort, si on veut qu'il reste uni, il faut qu'il y ait également un gouvernement national qui est capable de parler au nom de tous les Canadiens et de faire l'unité de tous les Canadiens. Eh bien, ce qu'il faut maintenant devant un monde qui nous menace, devant une décennie des années 80 qui va être crispée par des problèmes de pétrole, des problèmes d'inflation, dans un pays où des provinces veulent nous enlever le pouvoir de continuer de donner des allocations familiales ou de maintenir le système d'assurance chômage ou d'assurance maladie ou de continuer les pensions de vieillesse, nous disons non. Et le problème est grave parce que le lendemain du référendum, il y aura des questions qui vont se poser dans ce pays. Le lendemain du référendum, qui est tenu par un gouvernement qui veut débattre ce pays-là, il y a beau parler d'autre chose, mais c'est ça, la souveraineté, l'indépendance, la séparation. Nous qui allons bâtir pour l'ensemble du pays, qui avons des idées un peu plus grandes que ça. Et c'est à ce moment-ci de notre histoire qu'il faut demander aux Canadiens de toutes les provinces, qu'il faut leur demander d'appuyer un gouvernement et un parti qui ont des idées claires sur l'avenir du Canada et qui peuvent dire oui à la main tendue quand il s'agit de coopérer avec les provinces ou avec d'autres pays, et Dieu sait qu'on l'a fait depuis 10 ans, mais qui peuvent dire non aussi quand il s'agit d'essayer d'arracher au gouvernement fédéral le pouvoir qu'il a de parler au nom de tous les Canadiens. Parce que c'est comme ça qu'on voit le pays. On n'est pas si borné qu'on pense qu'il y a seulement au Québec qu'on peut parler pour les Québécois. Les députés élus à Ottawa parlent tout aussi bien au nom des Québécois et représentent tout autant l'intérêt des Québécois que n'importe quel tartampien qui est élu à Québec pour représenter les intérêts des Québécois. Et c'est comme ça qu'on voit la politique, nous autres, Québécois et Canadiens. Et c'est comme ça que c'était vu depuis 112 ans que le pays existe, quand les Québécois avaient la sagesse politique d'envoyer en même temps un Laurier à Ottawa ou un Saint-Laurent à Ottawa et qu'ils élisaient en même temps à Ottawa, à Québec, des gouvernements, que ce soit celui de M. Parchaud, M. Duplessis ou M. de Lesserre. Mais c'était ça notre sagesse politique à nous autres Québécois. Dire, bien sûr, on va se gouverner dans la province, mais ce pays-là continue de nous appartenir. Et quand on envoie à Ottawa pour nous présenter un Henri Bourassa ou un Wilfrid Laurier ou un Louis Saint-Laurent, ils parlent en notre nom autant qu'un René Lévesque ou un Jean Lesage ou un Alexandre Tachereau. Puis c'est ça la nature du Canada. Et on veut que ça continue comme ça. Parce que ce pays-là, il nous appartient à tout le monde. Et encore hier, je vous le disais, hier matin, on était sur la côte du Pacifique avec ces montagnes encore enneigées et couvertes de forêts immenses qui plongent dans la mer du Pacifique. Et on a traversé les prairies, l'Alberta, comblées de richesses inouïes dans le domaine du pétrole et du gaz. La Saskatchewan, avec son huile lourde, son uranium, sa potasse. Le Manitoba, qui est un des greniers du monde pour la production du blé et des autres grains. L'Ontario et le Québec, avec leur puissance hydraulique inégalée au monde, leurs forêts immenses, leurs ressources en minerais de toutes sortes. Les provinces maritimes, avec leur charbon, avec les chutes de Churchill, avec la baie de Fundy avec les forces marémotrices les plus puissantes au monde, et cette côte du Labrador avec un granit sur lequel viennent se briser les vagues de l'Atlantique. Et encore, je ne vous ai pas parlé du Grand Nord qui s'étend vers le pôle, la terre de Baffin, la terre du Mackenzie, le territoire du Yukon, avec un climat dur et rude, bien sûr, mais avec des Esquimaux, des Inuits, des Indiens et des Blancs qui sont allés là et qui sont en train de découvrir, l'annonce encore il y a deux jours, une découverte de 3 trillions, 3 trillions, mes amis, de pieds cubes de gaz. Ça nous appartient, ça. C'est à nous autres, ça, c'est à nos enfants. Puis d'où vient qu'il y a des Québécois qui voudraient qu'on lâche ça? Québécois qui voudraient qu'on lâche ça? Québécois qui voudraient qu'on lâche ça? Québécois qui voudraient... Au moment où enfin le Québec entre en pleine possession de ses moyens, au moment où le Québec, avec Jean Lesage, s'est enfin donné un gouvernement moderne, avec des technocrates capables de rivaliser avec n'importe quel autre gouvernement provincial, au moment où nos frères d'Acadie et de l'Ouest se tournent vers nous, se tournent vers le gouvernement fédéral et disent, enfin, avec votre loi des langues officielles, vous nous avez protégés, vous nous avez donné le droit à nous, les gens de Saint-Boniface, les gens de Maillardville, les gens de Chetican, dans le nord de la Nouvelle-Écosse, vous nous avez donné le droit à nous de continuer de parler notre langue. Puis vous donnez de l'argent à nos gouvernements provinciaux pour qu'enfin ils nous donnent des écoles françaises. C'est à ce moment-ci de notre histoire qu'on dit on va tout lâcher ça. Et on démissionnerait nous à ce moment-là. On dirait c'est pas possible. Pas possible. Au moment où les gens de l'Ouest commencent à multiplier les écoles francophones, nous, dans le Québec, on prend notre revanche. Puis on va commencer à serrer la vis sur les écoles anglophones. Puis parce que depuis 100 ans, c'est vrai que les francophones dans les autres provinces n'ont pas eu la part qui leur est due, qui leur était due dans le domaine scolaire, par exemple, dans le domaine des services gouvernementaux. Mais à cause de ça, on va se venger sur les anglophones qui vivent ici aujourd'hui. Il y a un président des États-Unis qui disait « We will be just in our time ». C'est ça qui nous est demandé à nous autres. De chercher la paix et les solutions problème d'aujourd'hui. Eh bien, c'est ça qu'on veut présenter pour vous à Ottawa. Parce qu'on a foi en Québec, on a la passion du Québec, comme bien d'autres, mais pas moins. Mais on a la passion du Canada, puis on a foi au Canada aussi. Et je sais que ceci, ce soir, on a des candidats et on a des électeurs qui vont se joindre à la grandeur du pays, à tous ceux dont le cœur bat et le cerveau pense et les bras travaillent pour la force, pour la grandeur, pour l'unité et la prospérité de ce pays.